Bonjour.
Bonsoir Émilie.
Bonjour à tous. Heureuse de vous retrouver aujourd'hui en direct avec le printemps qui nous a rejoint tout dernièrement et qui se joint à moi aujourd'hui pour vous parler du désir. Le désir est le thème d'ailleurs du printemps des poètes de ce mois de mars. Le désir, cet obscur objet qui se prête sans doute bien au mouvement de la pensée poétique par son mystère, par une forme de dépassement de la raison. Et à propos de cet obscur objet du désir, le dernier film réalisé par Buñuel, Luis Buñuel, en 1977, Jean-Claude Carrière, qui a coécrit le film avec Buñuel, dira que le désir semble être une bien étrange mécanique, entêtante, obsédante, parfois à tel point que c'est l'état même du désir dont nous sommes désireux. Désirer, ce serait ce qui nous fait nous sentir vivants. Donc le désir nous tiraille, nous provoque. Nous vivons à travers une continuelle projection de nos désirs, sans savoir toutefois exactement dans quelle direction va le désir. Quel est l'objet réel du désir? Que désire-t-on? On désire faire la fête avec ses amis, manger un gâteau, réaliser un voyage rêvé de longue date. On désire une personne. Et en ces temps de restrictions et d'adaptation de nos quotidiens, nos désirs semblent confinés souvent à l'impossible. Ils se réinventent sans cesse, ils sont forcés, contraints à changer d'objet. Mais ils nous sont permis. Ils sont un monde possible, comme ce qui justement peut se réinventer à loisir, parce que par nature, le désir est inépuisable.
Mais est-ce qu'on peut définir le désir?
Alors le désir est inépuisable et en plus il porte quelque chose d'insondable, de presque indicible. Ce caractère insondable du désir, ce niche au cœur d'une contradiction. Il semble infini, et la période que nous traversons renforce la contradiction interne au désir. Je tends vers ce qui n'est pas réalisable de suite, et que je ne désirerais plus d'ailleurs si je le réalisais, ici et maintenant. Pourtant, je m'attache au désir comme tension, vers quelque chose qui n'est même pas assuré de se réaliser, qui n'est pas situé clairement dans la réalité de mes actions, mais qui se joue comme une projection, parfois salvatrice, dans une direction que j'ignore souvent, en même temps que je la désire. Donc il ne s'agit pas de vouloir, car notre volonté est dissemblable du désir, alors que le désir existe par le fait même de ne pas s'inscrire dans le réel imminent, la volonté, elle, est un moteur de nos actions. Elle est même porteuse d'une morale pour Kant. Elle tend vers le réel avec force. Elle dit « je veux ». Et elle a le pouvoir de se déterminer vers un objet selon ses propres raisons. Le désir, lui, s'accorde avec l'illusion et dit « je voudrais ». On dit souvent de lui qu'il manque de volonté, justement. Il serait faible selon la raison, voire réduit au vide et à la passivité. Du côté du rêve, ou de ce qui n'est pas. Mais lui que nous disons soumis aux passions, ne peut-il pas s'exprimer comme liberté dans un débordement du réel? À l'heure où nos volontés sont bousculées, alors que nous n'avons sans doute paradoxalement jamais été si présents à nous-mêmes, notre volonté fait fi de la persévérance, qui a duré, qui s'est peut-être épuisée à s'adapter extensiblement. Jusqu'à maintenant, et depuis un an. Et nous en venons peut-être à nous manquer à nous-mêmes. Là intervient justement le désir, comme un au-delà de la volonté. Il nous reste notre capacité à désirer, à nous réfugier dans l'illusion d'un réel d'après ou différent, fantasmé. Si le réel nous échappe, bien que cela reste troublant, implacable, difficile parfois, nous pouvons nous accorder le droit de manquer un peu au réel, comme une extension vers des rêves à habiter.
Et quand la volonté manque, que peut faire le désir alors?
Le désir viendrait nous consoler de voir nier nos volontés alors que nos actions, nos activités sont limitées, condamnées, reportées, annulées. Et cette difficulté à nous projeter dans cette réalité-là, ce serait cette persévérance du désir en nous. Pour Spinoza, le désir, c'est l'essence de l'homme. L'homme est par nature, selon lui, un mouvement pour persévérer dans l'être, pour exister encore et toujours plus. C'est une force croissante qui s'affirme parce que le désir est vécu comme une joie. Donc au-delà d'une temporalité classique hein, de nos volontés, au-delà des temporalités marquées, concrètes du quotidien, désirer nous projette vers une temporalité plus abstraite, parfois tout aussi dense, mais qui ne peut s'inscrire socialement, professionnellement, affectivement, de façon aussi évidente qu'avec la volonté dans le réel. Le désir est moins réaliste, en cela qu'il est moins inscrit dans nos espaces sociaux, plus intimes aussi, jusqu'à paraître déréel parfois. Il submerge en quelque sorte nos actions volontaires, il les dissout jusqu'à nous perdre. Le temps est dilué par le désir, mais c'est notre être tout entier qui se tend par le désir, jusqu'à effacer la volonté, la dépasser dans sa force, dans son autorité. Il renvoie à une réalité plus diffuse, certes, et vient parfois confondre nos ambitions avec le désir, il vient brouiller les pistes de la raison. Il n'est pas toujours évident d'organiser notre désir et de hiérarchiser nos désirs, d'autant plus justement qu'on se passe de l'ordre social, ou même de la nature des choses. Car avec le désir, les choses ne sont jamais comme elles sont, ou comme elles devraient être. Par essence, le désir cherche toujours à faire exister ce qu'il aimerait qu'il soit, ce qu'il voudrait, ce dont il rêve, et non à connaître ou à reconnaître ce qu'il est. Le désir ne peut se contenter de la réalité. Il ne sert à rien de dire au désir « c'est comme ça » ou « ça ne fonctionne pas comme cela » parce que le désir ne peut pas l'entendre. Certains diront qu'il est au-delà de tout bien et de tout mal, de la raison. Au-delà de la raison pour Nietzsche notamment, pour qui il est une puissance de désirer. D'autres diront au contraire que nous pouvons hiérarchiser nos désirs en les calquant sur une forme de réalité matérielle, dira Épicure. L'incarnation est essentielle dans le désir, car il n'est jamais loin du corps et de la sensation. D'ailleurs, pour Épicure, dans la hiérarchisation des désirs, les premiers sont les plus naturels et nécessaires. Ce sont ceux qui permettent au corps de vivre, ni plus ni moins, sans couper les nécessités du corps de celles de l'esprit. Il y a bien relation dans le désir entre le corps et la pensée. D'où cette importance du désir de pouvoir désirer en paix, un monde d'après ou un monde différent. Reconnaître le désir, c'est sans doute pas suffisant à nos vies, hein, mais néanmoins nécessaire. Ce serait aujourd'hui dépasser une forme de réalité matérielle tout en s'y adaptant, sans se limiter à elle, parce que le désir déborde de cette réalité. Dans ce débordement se joue une poésie de l'existence, la possibilité que nous avons de penser au jour suivant qui sera meilleur peut-être, plus agréable à vivre, plus en phase avec nos aspirations, notre besoin de liberté, pardon, parce que le désir est en ce sens une épreuve de la liberté. C'est en somme la capacité à se projeter sans se sentir borné par le réel. Et si on commande moins nos désirs que notre volonté, le désir peut d'ailleurs être plus tenace au corps et à l'esprit que la volonté. Il est distinct de l'action et de la réalisation, comme le montre le fantasme au sens psychanalytique du terme. Et si notre capacité à désirer est sans limite, tous les désirs, eux, ne sont certainement pas à réaliser, bien sûr. Il n'y a d'ailleurs rien de désirable ou de chose bonne à désirer en soi, pour Spinoza. Ce n'est pas le caractère réalisable, bon ou mauvais, qui limite le désir. si, plus que renvoyer à ce qui n'est pas aux limites de notre capacité. Le désir nous disait justement ce qui n'est pas encore. Et s'il libérait nos esprits des contraintes qui nous sont imposées du dehors, mais aussi par nous-mêmes. Si nos espoirs sont rares ou que les raisons d'espérer nous semblent parfois perdre du sens, il nous est toujours possible de désirer l'impossible.
Merci beaucoup, Émilie, pour ces perspectives sur le désir. C'est vaste, ça donne envie de désirer en tout cas des choses.
On a tout le printemps pour cela et je vous propose dans les prochains croque-philo pour continuer un peu sur cette célébration aussi du printemps, de nos émotions mais aussi de nos sensations, une petite série de chroniques sur les cinq sens.
Ça me paraît très à propos avec ce renouveau printanier. Moi, je me suis rendu compte en t'écoutant que j'avais jamais forcément distingué cette question de désir et de volonté. T'aurais une clé un peu pour... Enfin voilà, je sais pas. J'ai été surprise en fait de cette distinction-là.
Alors, c'est une distinction qui est plutôt classique en philosophie, mais c'est vrai que dans la vie quotidienne, toutes et tous, on a tendance complètement à mêler l'un à l'autre, à peu les distinguer. Peut-être qu'on pourrait se dire que si repère il y a, que le repère entre la volonté et le désir, c'est peut-être justement les forces que l'on se donne et les actions qu'on met en place pour réaliser justement nos aspirations. Et on parle souvent de cette force de la volonté. Mais on inscrit aussi cette force toujours dans quelque chose souvent de raisonnable, voire de rationnel. Alors que le désir, lui, il échappe un petit peu à tout ça. Et parfois, quand on dit à quelqu'un prendre ses désirs pour la réalité, c'est souvent parce que l'idée du désir manque un peu de rationalité et puis parfois même de courage ou d'ambition. Et souvent, on renvoie le désir comme ça, de façon même un petit peu négative, à ce qui n'est pas suffisamment rationnel ou réaliste. Alors que la volonté, elle s'accompagne généralement des deux pieds dans la réalité.